À quoi pensez-vous si je vous dis « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Ou encore « Deux valent mieux qu'un. » La corde à trois brins ne se rompt pas vite. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Et Dieu fait toute chose belle en son temps. Rien de nouveau sous le soleil. Vanité des vanités, tout est vanité. Ça vous fait penser à l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste, un livre qui fait partie de ces livres de l'Ancien Testament que l'on appelle les livres de sagesse. Attendez, ça va fonctionner. Non, ça ne veut pas. Pourtant, c'est bien allumé. Hop. Bon, si on peut avancer d'une diapo, s'il vous plaît. Les livres de sagesse, il y a plusieurs parties en fait dans l'Ancien Testament, le Pentateuch, les livres historiques, les livres de sagesse ou aussi les livres poétiques, et puis les livres prophétiques. Et dans le cadre des livres de sagesse, il y a cinq livres, et c'est là qu'on trouve le livre de l'Ecclésiaste parmi Job, Psaume, Proverbe et aussi le Cantique des Cantiques. Et ce livre de l'Ecclésiaste, il suscite souvent des réactions assez diverses. On peut être assez surpris, assez dépaysé, peut-être même parfois un peu choqué par certains des propos et des interrogations que le livre pose. C'est un livre qui est assez étonnant, parfois même un peu énigmatique. Il commence de la manière suivante, ce livre de l'Ecclésiaste. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. La personne qui nous parle dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est quelqu'un qui est assez difficile à cerner dans sa personnalité. Il y a tantôt des pointes d'optimisme, et puis parfois on a l'impression que voilà, c'est vraiment le pessimisme qui le gagne. Il y a un côté assez mystérieux qui se rattache à sa personne. Du coup, la question, qui est l'Ecclésiaste? C'est une question qui d'ailleurs peut surprendre, parce que on a souvent entendu dire, et on a toujours peut-être même pensé, que l'auteur est le roi Salomon. Et c'est vrai qu'il y a dans le livre un certain nombre de renseignements qui font penser à la personne de Salomon. Ne serait-ce que le verset que nous venons de lire, l'auteur est présenté comme fils de David, roi à Jérusalem. Ça fait penser à Salomon. Il est plus sage que tous les sages. Il est plus grand que tous ceux qui ont été avant lui à Jérusalem. Effectivement, on lit ça au chapitre 2, verset 9, ça fait penser à Salomon. Il apparaît comme quelqu'un de très riche qui a réalisé de grands travaux. Il a eu aussi un harem avec de nombreuses femmes, ça fait penser à Salomon. On a donc traditionnellement considéré que Salomon est l'auteur du livre de l'Ecclésiaste, et pourtant, contrairement aux autres livres où Salomon est l'auteur, par exemple les Proverbes ou le Cantique des Cantiques, Salomon n'est jamais nommé, mentionné explicitement dans le livre de l'Ecclésiaste. D'ailleurs, l'Ecclésiaste n'est pas non plus présenté comme étant l'auteur du livre, puisqu'on parle de lui à la troisième personne du singulier, comme on le voit ici, comme on le voit au verset 2 qu'on va lire tout à l'heure, comme on le voit à différents endroits. Voilà, parole de l'Ecclésiaste, et non pas « voici mes paroles, à moi l'Ecclésiaste ». L'auteur du livre donc semble bien plutôt reprendre les paroles de quelqu'un d'autre que lui-même, quelqu'un qu'il nomme l'Ecclésiaste. Et on a l'impression que l'auteur a voulu laisser une sorte de flou sur l'identité du personnage qu'il fait parler. Et ce n'est probablement pas un hasard, parce que l'auteur veut montrer l'échec de la sagesse humaine et l'insatisfaction des richesses. Et pour que sa démonstration soit valable, il faut qu'elle vaille pour l'être humain le plus sage et le plus riche qui soit. Et tout de suite, on pense à Salomon. Ce livre a été écrit quelque temps après Salomon. L'Ecclésiaste est présenté avec les traits de Salomon, la richesse, la sagesse, le grand entrepreneur, etc., et dans la bouche duquel l'auteur fait prononcer ce constat d'échec dont parle le livre. Et si ce constat est valable pour la personne la plus riche, la plus sage, à combien plus forte raison ce même constat est valable pour tout être humain? Qu'est-ce que l'Ecclésiaste, qu'est-ce que l'auteur veut nous enseigner dans ce livre? Verset 2. Tout est vanité, absolument vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité au plus haut point. Les traductions que j'utilise sont une traduction à équivalence dynamique comme la Summer, c'est une traduction qui rend le sens du texte plus compréhensible souvent que les traductions littérales. Ce mot vanité ici, qu'on retrouve 38 fois dans ce livre et 35 autres fois dans l'ensemble de l'Ancien Testament, donc c'est dire que le mot vanité, il est très présent, rien que déjà dans ce verset. Mais qu'est-ce que ça signifie, vanité? Ça veut dire rien, une chose sans réalité, comme les idoles. C'est quelque chose qui ne mène à rien, inutile, c'est illusoire. C'est éphémère, c'est vapeur, c'est sans consistance. L'Ecclésiaste observe tout ce qui l'entoure, ce monde qui l'entoure, il examine, il réfléchit avec sagesse et il en arrive à la conclusion que tout est vanité, absolument vanité, dérisoire, futile, vapeur. C'est la thèse fondamentale de l'ensemble de ce livre. L'Ecclésiaste expose son discours avec beaucoup de soin. Il y a un cadre, il y a une structure. J'essaye de la faire apparaître ici. On a tout d'abord une introduction en marron à laquelle répond tout en bas, à la fin du livre, une conclusion. Il y a ensuite au verset 2 que nous venons de lire la thèse, tout est vanité, qui est reprise à la fin du livre, au chapitre 12, verset 8. Nous avons un prologue qui est un poème sur les cycles de la vie et sur lequel nous allons méditer ce matin. Auquel répond un post-log à la fin, sur cette fois-ci un poème concernant la vieillesse qui vient clore les cycles de la vie. Donc tout ce qu'on vient de voir, là, ça forme une inclusion, ça englobe quoi? Eh bien ça englobe tout le discours, une grosse partie du livre, qui en fait est deux grosses parties du livre. Dans la première partie, en bleu, dans les chapitres 1 à 12 jusqu'à la fin du chapitre 6, l'Ecclésiaste veut montrer la réalité de la vie, la situation déplorable dans laquelle l'être humain se trouve. Et dans la deuxième partie du corps de son discours, il nous donne des conseils de sagesse pour apprendre à vivre dans cette réalité. Donc on voit que le discours de l'Ecclésiaste, il fait sens. On ne part pas dans tous les sens. Il est très structuré, on ne s'y perd pas. Et de manière transversale, il y a cette thèse en rouge ici, qui est dite au début, à la fin, qui entoure le discours, mais qui est rappelée en différents endroits, tel un refrain. Mais si on s'arrêtait là, on raterait le message central de ce livre. C'est qu'à côté de ce refrain, que tout est vanité, il y a un autre refrain qui reviendra, je reparlerai de cela tout à l'heure, c'est sur le refrain sur le bonheur. Le refrain sur le bonheur. Je vous invite à suivre la lecture du prologue, donc le chapitre 1, les versets 3 à 11, qui est en fait ce poème sur les cycles de la vie. J'affiche la traduction ici, dans une traduction, comme je disais tout à l'heure, assez dynamique. Quel avantage l'homme retire-t-il de tout le labeur pour lequel il trime sous le soleil? Une génération passe, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il aspire à se retrouver au lieu d'où il se lèvera à nouveau. Il va vers le sud, puis il tourne vers le nord, il tourne et tourne encore, ainsi va le vent. Et il reprend de nouveau les mêmes circuits, le vent. Tous les fleuves vont se jeter dans la mer, et la mer n'est pas remplie. Les fleuves ne cessent de couler dans le lit où ils ont toujours suivi leur cours. Tout est en travail, plus qu'on ne peut le dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir, ni l'oreille comblée de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dit « Eh, regarde, c'est nouveau cela !» Cela a déjà existé il y a bien longtemps, dans les temps qui nous ont précédés. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui a été autrefois. Et l'on ne se souviendra pas davantage de ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui nous succéderont n'en conserveront pas le souvenir. Le poème sur les cycles de la vie. À la lumière de ce prologue et de tout ce qu'on a déjà dit sur l'Ecclésiaste et sur la thèse qu'il nous présente, que tout est vanité, j'aimerais qu'on retienne trois enseignements que je vais présenter sous la forme d'applications qui sont en quelque sorte transverses à l'ensemble du livre et qui tiennent compte aussi de ce prologue-là. Le prologue, là, c'est ce qui précède le discours que nous venons donc de lire. Ce que nous disons aujourd'hui, en fait, sert d'introduction à l'ensemble du livre de l'Ecclésiaste. La question qui est centrale dans ce livre, c'est celle du bonheur. Où et comment trouver le bonheur ? Premier enseignement, apprenons à discerner. Apprenons à discerner. L'Ecclésiaste veut nous amener à réfléchir, à se poser les bonnes questions pour apprendre à discerner. Un peu comme il dit au verset 3, « Quel avantage l'homme retire-t-il de tout le labeur pour lequel il trime sous le soleil ?» L'Ecclésiaste dit souvent « Quel avantage à ceci ? Quel avantage à cela ?» Il pose des questions, et des bonnes questions. Dans son livre, il ne cesse de stimuler par ses questions notre réflexion. Il veut nous amener à réfléchir, et ça c'est très important. Parce que, j'ai l'impression de plus en plus qu'on réfléchit de moins en moins par nous-mêmes. Et en particulier, la génération nouvelle. On se tourne vers les experts, vers les spécialistes. On veut avoir un avis sur la gestion du climat. Eh bien, pas de souci, on fait une COP et on invite tous les meilleurs experts du monde du climat. On veut s'informer sur les actualités. Bah, c'est très bien, on ouvre la télévision. Et on allume la télévision, pardon, et puis on écoute tous les journalistes qui nous donnent les informations. En soi, c'est normal de faire cela, parce que les spécialistes, les experts connaissent finalement mieux leur sujet que nous. Ceci étant, si on ne fait que écouter et emmagasiner, pardonnez-moi l'expression, bêtement ce qu'on nous dit, eh bien c'est problématique, parce qu'on ne réfléchit plus. Et on fait de plus en plus cela pour n'importe quel sujet, même pour le sujet de la foi. Souvent, dans notre ancienne église, on est venu me demander mon avis sur tel ou tel point de théologie. Et qu'est-ce que j'ai répondu ? Eh bien, qu'est-ce que la Bible enseigne sur ce sujet ? À la lumière de la Bible, qu'est-ce que toi, tu en penses ? Autrement dit, plutôt que de donner une réponse toute faite, et que la personne risque d'emmagasiner, bêtement, je préfère l'amener à réfléchir par elle-même, à lui donner les outils qui va lui permettre d'élaborer un point de vue. Je vais donner un cadre, je vais l'accompagner. Et tout ça à la lumière de la parole de Dieu. J'ai l'impression qu'on réfléchit de moins en moins. Contrairement à l'Ecclésiaste, qui est quelqu'un qui prend justement le temps d'observer le monde qui l'entoure. Et sur la base de ces observations, l'Ecclésiaste s'interroge, il réfléchit. Nous ne devons jamais cesser de nous interroger sur ce qui se passe dans le monde autour de nous. Prenons quelques exemples. Vous entendez une information au journal de 20 heures. Ça vous questionne. Ça suscite votre intérêt, en tout cas au minimum. Eh bien, allez consulter une autre source d'information et regardez comment cette même information est traitée par tel autre média. Et vous pourriez bien être surpris. Vous regardez un film, très bien. Eh bien, débriefez ensuite. Interrogez-vous sur le contenu du film. Je me souviens d'un échange avec une personne qui me disait « Tu vas voir ce film, il est super !» les jeux d'acteurs, la manière dont le réalisateur a tourné, les effets de caméra, etc. Bon, tu verras, c'est super. Personne ne me dit ça, alors je vais regarder le film. Et là, je lui dis, mais tu ne trouves pas qu'il y a un problème un peu éthique quand même dans ce film ? Ah bon, tu crois ? Bah ouais. Parce qu'aujourd'hui, on ne regarde plus que la forme et on ne s'intéresse peu ou pas au fond. On réfléchit moins et on passe à côté de ce qui est vraiment important ou de ce qui doit nous alerter au profit, au dépend plutôt de ce qui est beau, de ce qui attire le regard. Vous regardez une vidéo sur YouTube ou n'importe quelle autre plateforme, la vidéo se termine, et bien plutôt que de regarder une autre vidéo, parce que c'est très facile de scroller l'écran comme ça et on y passe la soirée, bah, arrêtez-vous et posez-vous la question, qu'est-ce que cette vidéo m'a appris ? Est-ce que c'est pertinent pour moi ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ce type de vidéo est encore à regarder ou pas ? Apprenons à discerner. Apprenons à avoir un esprit critique sur le monde qui nous entoure, pour ne pas emmagasiner bêtement tout ce qu'on entend. L'Ecclésiaste veut nous amener à réfléchir et à nous poser de bonnes questions. Parfois, on se pose des questions, mais ce ne sont pas toujours les bonnes. On se dit, par exemple, pourquoi est-ce qu'il m'arrive ceci, cela ? Pourquoi moi ? Pourquoi encore ceci ? Pourquoi ? L'Ecclésiaste nous invite plutôt à nous demander qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne de cette circonstance qui m'arrive ? Quelle leçon Dieu veut-il que j'en tire ? Apprenons à discerner, en réfléchissant, en se posant les bonnes questions. C'est ce que l'Ecclésiaste faisait, et c'est ce que nous sommes invités à faire nous aussi. Deuxième enseignement, soyons lucides sur la réalité qui nous entoure. On va y arriver. Non. Voilà. Merci beaucoup. Soyons lucides sur la réalité de la vie. L'Ecclésiaste veut nous amener à avoir un regard lucide sur le monde qui nous entoure. C'est ce qu'il faisait lui-même. Le livre de l'Ecclésiaste dresse des constats qui sont réalistes, qui sont concrets. Alors c'est vrai, parfois il emprunte des chemins un peu énigmatiques. Il va dire quelque chose à un moment et puis un peu plus loin, il dira exactement le contraire. Et une lecture rapide nous dirait, mais en fait, il tourne pas rond l'Ecclésiaste. Il dit tout et son contraire à quelques versets d'écart. Mais en fait, rappelez-vous, l'Ecclésiaste, il observe le monde qui l'entoure. Et s'il dit quelque chose et plus tard le contraire, c'est pas parce qu'il se contredit lui-même, mais c'est que le monde qu'il observe est rempli de contradictions. L'Ecclésiaste nous invite à observer et à prendre conscience que tout est vanité, dérisoire, futile, éphémère, vapeur, quand il s'agit de tenter de s'extirper de la réalité de la vie, de la condition humaine dans laquelle nous sommes. C'est la thèse de son livre, à laquelle il aboutit justement en ayant réfléchi et en ayant posé toutes ces questions. Ça me fait penser à des vacances que nous passions en Savoie il y a quelques années. Alors nos enfants étaient un peu plus jeunes, mais il y avait de temps en temps des nuages qui montaient de la vallée jusqu'à nous qui étions en altitude. Et puis une fois, on s'est retrouvés dehors au moment où les nuages montaient et nos enfants essayaient d'attraper les nuages. Ils couraient après les nuages, comme on court après un arc-en-ciel. Bien sûr, ils n'arrivaient pas, c'est de la vapeur. On ne peut pas attraper un nuage, une vapeur. Pas plus que nous ne pouvons contrôler notre vie et penser pouvoir tout expliquer aux circonstances de notre vie. C'est un peu le côté dérisoire de l'existence humaine. Quel avantage, verset 3, l'homme retire-t-il de tout le labeur pour lequel il trime sous le soleil ? Quel avantage ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi tout cet investissement ? À quoi ça sert ? À qui ça sert ? Et l'Ecclésiaste ne va pas répondre dans son prologue de manière directe. On aurait aimé peut-être parfois que ce soit un peu plus explicite. Non, il répond de manière implicite avec ce poème, qui est le poème des cycles de la vie. Et pour cela, il va répéter des mots, des expressions. J'ai mis quelques couleurs ici. Il va répéter le mot « aller », le verbe « aller », le verbe « venir », « se lever », la racine « tourner », « retourner », « être », « faire », « souvenir », « se souvenir », etc. Tout cela pour montrer que la vie est une succession de cycles qu'on ne méprise pas. La vie, notre vie, notre quotidien est cyclique en fait. Le matin, on se lève, on se prépare, on prend le petit déjeuner, on remplit le lave-vaisselle, on emmène les enfants à l'école, on part travailler, on emprunte toujours le même travail, le même trajet pour aller travailler. Et le soir, on emprunte le même dans l'autre sens. On va chercher les enfants, on fait faire les devoirs aux enfants, on case une machine à laver dans tout ça, on vide le lave-vaisselle qui a tourné pendant la journée, on couche les enfants, on regarde une série à la télévision, on va se coucher à notre tour, et le lendemain, ça recommence. C'est génial la vie. Et beaucoup de personnes, elles attendent une seule chose. Le lundi, le mardi, le mercredi, elles attendent quoi? D'être le vendredi soir. Parce que c'est le week-end. Et le week-end, c'est différent. Le week-end, on se lève tard, on se prépare, on prend le petit déjeuner, on remplit le lave-vaisselle, on amène les enfants au sport, on fait faire les devoirs qui restent, on range la maison, on fait du ménage parce qu'on accueille du monde. Et c'est génial, on va passer un bon moment avec nos invités. Nos invités s'en vont et puis il faut à nouveau ranger la maison et faire du ménage et vider le lave-vaisselle qui s'est rempli depuis le matin. Le soir, on couche les enfants, on regarde une série à la télé qui n'est pas plus intéressante que celle de la semaine, c'est normal, c'est la suite. On va se coucher à notre tour. C'est génial le week-end. Et dans un élan de lucidité, on se rend compte en fait que la vie, c'est un ensemble de cycles. Alors, on est à l'affût de choses nouvelles, parce qu'il faut de la nouveauté dans cette vie pour sortir de cette spirale de cycles, ces cycles de la vie. Enfin, c'est ce qu'on pense. Et là, l'Ecclésiaste nous dit au verset 10, « Mais s'il y a une chose dont on dit, regarde, hé, ça c'est nouveau. » En fait, cela a déjà existé il y a bien longtemps, dans les temps qui nous ont précédés. Simplement, on a oublié. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, verset 9. Il nous faut de la nouveauté, on cherche la nouveauté. Bientôt, ce sera le temps de commencer à y songer, hein, de faire votre liste au Père Noël, parce que je suis sûr que il y a des cadeaux qui vont répondre à tous vos besoins à Noël. Alors on écrit au Père Noël, c'est une blague hein, ce que je dis bien sûr, mais on écrit au Père Noël et on dit bah, je veux ça, parce qu'avec ça, je vais être heureux enfin. Ça ne vous est jamais arrivé de recevoir un cadeau et de vous dire « Waouh, c'est génial, maintenant que j'ai ça, je vais être heureux. Ça va répondre à mes besoins. » Et puis en fait, c'est génial pendant quelques heures, pendant quelques jours, parfois peut-être quelques semaines, et puis ça finit par se retrouver au placard comme toutes les autres choses que l'on a. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de tous les cadeaux que l'on vous a faits? Et les gens à qui vous avez fait des cadeaux, est-ce qu'ils se souviennent de tous les cadeaux que vous leur avez faits? Parfois oui, mais je doute qu'on se souvienne de tout. On reçoit des choses nouvelles, mais ça n'apporte foncièrement pas le bonheur. Alors on cherche encore ailleurs. On va regarder à tous les progrès et les progrès que fait la science. C'est vrai, après tout, notre société fait de nouveaux progrès sur le plan scientifique, médical, etc. On voyage en voiture. C'est super la voiture. On part en vacances pendant 2 à 3 semaines. Et puis quand on revient bien reposé, on perd tout le capital repos à cause des bouchons dans la vallée du Rhône. Internet, c'est bien, mais que de temps perdu à lire des courriels sans intérêt. Continuez à m'envoyer des mails, hein, si je suis pas en train. À rechercher l'information qui est pertinente sur Internet, tellement c'est vaste. Elle est où l'information qui est pertinente? Et pour qu'elle soit pertinente, il faut s'interroger, se poser les bonnes questions. Est-ce qu'elle est vraiment pertinente? Je vous renvoie à la première application. Que de temps gaspillé sur Internet dans le virtuel au détriment de relations personnelles authentiques. On fait des progrès aussi sur le plan médical, mais on meurt toujours. Et d'ailleurs, le livre de l'Ecclésiaste parle à plusieurs reprises de la mort. On fait des progrès, on dispose de tout plein de matériel électroménager pour nous aider dans notre quotidien, mais ce qui est neuf un jour est vieux le lendemain et obsolète le surlendemain. Et on pense que tous ces progrès vont faire que ça va aller mieux, qu'on va être heureux enfin, qu'on va pouvoir sortir de cette spirale des cycles de la vie. Je me souviens d'une discussion avec la grand-mère de Laura. À l'époque, elle avait 94-95 ans quand on échangeait là-dessus. Elle me disait, de mon temps, il n'y avait pas de lave-vaisselle, pas de lave-linge, pas de couche jetable, pas de... La liste était longue, hein. Et quand on voit toutes les nouveautés dont dispose la génération actuelle, on pourrait se dire qu'elle a tout pour être heureuse. Et la grand-mère de Laura, de conclure, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. J'ai l'impression que c'est tout l'inverse. Malgré tous ces progrès, on ne sait pas les utiliser à bon escient. Alors d'accord, les nouveautés, les technologies, ça n'aide pas tant que ça pour trouver du bonheur à notre vie, pour s'extirper de cette existence humaine, dérisoire, futile. Alors on cherche ailleurs et on essaye de rendre la vie simplement moins monotone, avec différents moyens dont le livre parlera plus loin, comme par exemple les loisirs, les plaisirs de la vie. Mais là encore, nous verrons que cela ne nous aide pas vraiment à être heureux. Là où nous cherchons à tout maîtriser, à tout comprendre, en particulier quand on a des choix importants à faire, là où la publicité nous dit « avec ce produit-là, vous allez enfin être heureux », là où on trouve sur Internet ou dans des articles « si vous lisez ça, si vous faites ça tous les matins, votre vie va changer, va être géniale », et bien en fait, l'Ecclésiaste nous dit « futilité, futilité, vanité, rien de ce que tu feras ne pourra t'extirper de ton existence humaine, de ta condition humaine. » On cherche à tout maîtriser, on cherche à surfer sur la vague, mais la vague, elle finit toujours par revenir sur la plage. C'est le cycle de la mer. On pense maîtriser notre vie, mais la vie reprend son cours avec cette succession de cycles répétitifs qui se répètent indéfiniment à l'infini. L'Ecclésiaste veut que nous ayons un regard lucide sur la réalité humaine. Toute tentative de s'extirper de notre condition est vanité, dérisoire, futile, éphémère, vapeur. Alors avec tout ça, on va tous pouvoir rentrer chez nous maintenant qu'on a le moral dans les chaussettes. Hein. Plus sérieusement. On réfléchit, on se pose les bonnes questions pour aiguiser notre discernement. On apprend à avoir un regard lucide sur la réalité de la vie. On dresse avec l'Ecclésiaste ce même constat, et il nous apprend à le dresser. Et on se dit, mais où est-ce que l'Ecclésiaste veut nous amener là? Est-ce que tout s'arrête à la thèse de son livre selon laquelle tout est vanité, tout est futilité? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Et oui, il y a quelque chose de plus. Et c'est le troisième enseignement. Apprenons à vivre la vie telle qu'elle est. L'Ecclésiaste veut nous amener tout au long de son livre à prendre conscience effectivement de la réalité de la vie, à dresser ce constat, mais ne pas s'arrêter là, aussi à apprendre à vivre la vie telle qu'elle est. Et pour ça, il va nous donner des conseils à partir du chapitre 7, et même un petit peu avant déjà, mais surtout au chapitre 7. À la lumière du prologue que nous avons lu tout à l'heure, l'Ecclésiaste se réfère, on l'a vu, au champ lexical de la nature. Ça fait écho à ce qu'on a entendu dans la première partie de ce culte. Hein. Il parle du soleil, les vents, les fleuves, la mer, etc. Pourquoi cela? Parce que dans la croyance populaire de l'époque, il y avait une ou des divinités qui se rattachaient à tous ces éléments de la nature. Il y avait le dieu soleil, le dieu de tel ou tel astre, le dieu de la mer, etc. Et l'Ecclésiaste regarde à tous ces éléments pour faire finalement ce constat que le soleil, pour prendre son exemple, il ne fait qu'emprunter toujours les mêmes parcours. Demain matin, le soleil il va se lever là-bas et il va se coucher ici. Ce sera toujours pareil. Vous pouvez regarder. Hein. Tout comme les vagues, tout comme les vents, le mistral, on sait d'où il vient, on sait où il va. Ça ne changera pas. Toutes les divinités de ce monde n'apporteront tout au plus un réconfort temporaire, mais ce sera toujours futilité, éphémère, dérisoire, vapeur. Et en soi, c'est normal puisque ces divinités font partie de la même création que nous. Et la création, elle souffre aussi depuis l'entrée du péché dans le monde, avec les conséquences qui s'y rattachent. C'est l'apôtre Paul qui nous en parle dans la lettre aux Romains, chapitre 8. Il dit ceci: « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » La création souffre, la vanité. Tant et tant de personnes dans ce monde vivent en essayant de trouver dans l'existence un sens à leur vie, des réponses à leurs questions, ou simplement à être heureuses, parce qu'elles ne le sont pas. Alors, si ça ne marche pas dans toutes les choses qu'on a déjà énumérées tout à l'heure, on peut encore tenter d'autres choses. Il faut faire des études poussées. Il faut monter dans la hiérarchie sociale pour avoir un rang toujours plus élevé. Il faut gagner un salaire important. D'autres vont dire qu'il faut voyager sur tous les continents. Ou de manière peut-être plus modeste, il faut chercher à transmettre à la génération suivante une bonne éducation. Mais même avec ça, il arrive que la génération qui suit, elle va partir en vrille. Et l'Ecclésiaste en parlera aussi dans son livre. En soi, il y a du bon à étudier, il y a du bon à voyager, il y a du bon à avoir des loisirs. Il y a du bon à éduquer la génération suivante. Mais est-ce que c'est vraiment ça le gain de l'existence? Est-ce que c'est vraiment ça qui apporte le bonheur? L'Ecclésiaste nous dit que tout est vanité sous le soleil. C'est une précision importante. Tout est vanité sous le soleil. Autrement dit, tout est vanité dans la réalité dans laquelle nous vivons avec les limites qui s'y rattachent. Nous vivons tous dans ce cadre-là, dans cette réalité-là, tous sauf une personne, Dieu. Dieu n'est pas limité, comme nous, par ce sous le soleil. Il est justement le créateur du soleil. Il est le créateur de tout ce qu'on a énuméré tout à l'heure dans la première partie du culte avec le récit de la création. Et il est le créateur aussi de nous et de la réalité dans laquelle nous sommes, à l'exception du péché, bien sûr. Et c'est là que l'Ecclésiaste, lui qui réfléchit, qui se pose les bonnes questions, qui regarde avec lucidité le monde qui l'entoure, l'Ecclésiaste nous invite à apprendre à vivre la vie telle qu'elle se présente à nous, et cela dans la confiance en Dieu. Parce que Dieu est la seule et unique source de la plénitude. La plénitude à l'opposé de la vanité, de tout ce qui est éphémère. Mes frères et sœurs, Dieu ne sera jamais neuf un jour, vieux le lendemain et obsolète le surlendemain. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui s'est révélé dans la Bible est celui qui peut répondre à tous nos besoins. Nous ne serons jamais insatisfaits en venant à lui. Alors c'est vrai, demain, cette semaine, il y aura encore, très certainement, des nouvelles tristes, peut-être même accablantes, qui nous renvoient à notre existence humaine qui est marquée par la vanité et par le péché. Mais Dieu nous fait la promesse qu'il sera là demain et cette semaine. Et au sein de cette vie-ci, Dieu nous invite à recevoir et à jouir des bonheurs de la vie que Dieu nous offre, parce qu'il y en a. Et ça revient ici comme un refrain dans le livre. J'en parlais tout à l'heure dans l'introduction. Il y a plusieurs refrains sur le bonheur que l'on trouve en Dieu dans ce livre de l'Ecclésiaste. La vie ne se résume pas à ces refrains que tout est vanité. Oui, il y a ces refrains que tout est vanité, parce que c'est une réalité. C'est la réalité à laquelle nous sommes exposés. Mais il y a aussi, et l'Ecclésiaste a fait ce constat et il veut que nous en prenions conscience, ces refrains sur le bonheur que nous avons et que nous trouvons en Dieu. Ces refrains attestent que l'Ecclésiaste ne voit pas la vie tout en noir. La vie apporte du mauvais, mais aussi du bon. Et l'Ecclésiaste nous aide à apprécier les bonnes choses au milieu de toutes les peines que l'on peut rencontrer dans la vie. Et il va même nous exhorter à profiter des plaisirs de la vie, tout en étant dans la soumission au Seigneur. Il en parlera au chapitre 11 de son livre. Il y a donc tous ces refrains sur le bonheur qui jalonnent le livre pour nous montrer, avec tous les conseils de l'Ecclésiaste, comment apprendre à vivre la vie telle qu'elle est, dans la confiance en Dieu et en prenant plaisir en Dieu et dans les petits bonheurs de la vie qu'il nous donne et qu'il nous faut apprendre à discerner comme des bonheurs qui nous viennent de lui, des grâces qui nous viennent de lui. L'apôtre Paul l'avait bien compris. Il dira dans la lettre qu'il a écrite aux Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 8, c'est l'apôtre Paul donc qui parle, « Je pourrais placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. » Paul est en train de dire que malgré tout son arrière-plan de pharisien, tout ce qu'il a accompli dans sa vie, tout son savoir, ses acquis, il considère tout cela comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, le seul et vrai Dieu. L'apôtre a pris conscience que Jésus-Christ est par excellence celui qui a accepté de tout perdre, de vivre la même existence humaine que nous et de donner sa vie pour nous pour que nous soyons sauvés et menions une vie nouvelle avec Jésus. Jésus-Christ est celui en qui nous avons la vie, la vraie vie. Alors c'est vrai, nous goûterons pleinement à la plénitude de cette vie lorsque Jésus reviendra. Et Apocalypse 22, verset 21, « Reviens, Seigneur Jésus, reviens !» Mais en attendant son retour, nous trouvons notre joie et notre bonheur dans cette relation de confiance que nous avons avec Jésus, lui qui n'est pas marqué par la vanité, par la futilité. Alors, ce n'était pas encore le cas de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste a vécu avant la venue de Jésus. Mais il n'empêche que il s'interrogeait, il était lucide sur le monde et il avait conscience de l'existence de Dieu. L'Ecclésiaste était un croyant en Dieu qui s'adressait à d'autres croyants. Il ne s'adressait pas à des non-croyants, il s'adressait à des croyants. Et il avait pris conscience de la place importante que Dieu devait avoir dans sa propre vie. Et est-ce que chacun de nous a compris cela aussi, tout comme l'Ecclésiaste et tout comme Paul après lui? Devant ce constat que fait l'Ecclésiaste, où tout est vanité, dérisoire, futilité, éphémère, vapeur, est-ce que nous avons pris conscience que Jésus et Jésus seul peut nous sauver? Que Jésus et Jésus seul veut venir donner un sens à notre vie Il ne nous fait pas extirper de la condition humaine dans laquelle on est. On la vivra jusqu'à son retour. Mais il donne un sens nouveau, un regard nouveau sur la vie que nous vivons maintenant. Est-ce que nous sommes, comme Paul l'a dit, prêts à tout perdre pour le gagner, lui, Jésus-Christ ? Amen.